8h47 sur France Culture, voici la transition d'Hervé Gardette. Bonjour Hervé.
Bonjour Guillaume.
Vous allez nous parler du ciel, des étoiles et d'Elon Musk.
J'évoquais hier ma préférence pour la vie parisienne. Il y a tout de même quelque chose que je préfère à la campagne et qui me conduit à y retourner chaque été pour les vacances. La couleur du ciel la nuit,
ah oui.
À condition qu'il ne pleuve pas, qu'il n'y ait pas trop de nuages et que les moustiques locaux aient signé un traité de paix avec le genre humain, on peut s'y noyer dans la contemplation des étoiles. Encore que le ciel sous nos latitudes n'y est jamais aussi sombre qu'il devrait, comme le constate Samuel Chalea dans son livre « Sauver la nuit » aux éditions Premier Parallèle, il n'y a plus sur le territoire français un seul endroit depuis lequel le ciel serait totalement exempt de pollution lumineuse. Et ce qui vaut pour nos campagnes vaut pour le reste du monde. 83% de la population mondiale et plus de 99% de la population états-unienne et européenne vit sous un ciel entaché de luminosité artificielle. Le halo des lampadaires, des enseignes, des phares des voitures, des immeubles et des maisons se perd dans le ciel et le rend moins obscur. Mais cette pollution ne suit pas seulement un mouvement ascendant, car voilà que la voûte céleste renvoie à son tour et de plus en plus vers la surface de la Terre un fatras d'étincelles, avions qui clignotent, satellites qui orbitent. 9000 ont été lancés depuis le premier Spoutnik en 1957. Et désormais, Crew Dragon, le vaisseau amiral de la flotte coruscante du milliardaire Elon Musk. Alors, au cas où vous seriez passé à côté de l'info, l'entreprise SpaceX, dirigée par Musk, a réussi le week-end dernier à envoyer un vol habité dans l'espace vers la Station Spatiale Internationale. Une première pour les États-Unis depuis 9 ans, une première tout court pour une entreprise privée. Exploit technologique, révolution politique, mais calamité astronomique. Non pas que la capsule parvienne à elle seule à troubler l'obscurité du ciel, mais elle sert de caravane publicitaire à un projet beaucoup plus vaste qui devrait conduire SpaceX et son programme Starlink d'accès à Internet via l'espace à envoyer à terme jusqu'à 42 000 satellites autour de la Terre qui iraient jusqu'à concurrencer l'empreinte visuelle des étoiles. Fin avril, on a déjà pu observer dans le ciel nocturne une traînée lumineuse formée par la constellation d'une soixantaine de satellites de ce même programme, une soixantaine d'autres devaient être mises en orbite cette nuit. Une infâme bêtise, estime un amoureux du ciel, l'auteur anonyme d'un très intéressant papier que vient de publier le quotidien en ligne Reporter. Contrairement aux satellites lancés par les différentes agences spatiales, les satellites de Starlink sont des choses jetables, produits industriels de masse, des ferrailles de la taille d'une machine à laver, particulièrement visible car elle reflète les rayons du soleil. Une pollution lumineuse jugée d'autant plus scandaleuse par les astronomes qu'elle est au cœur d'une bataille technologique et commerciale dont on peut interroger l'utilité pour les promoteurs de ces constellations de parasites visuels, écrit encore l'auteur de l'article sur Reporter. Il s'agit d'apporter aux deux tiers de l'humanité privée d'Internet une connexion au débit, que ce soit au fin fond des forêts primaires, dans les déserts de sable ou de glace, comme au milieu des océans. Alors, présenter de cette manière la prouesse de SpaceX et de ses concurrents à venir a quelque chose d'absurde. Cette course à la connexion ne nous prive pas seulement un peu plus de l'observation du ciel et de ses étoiles. Elle tisse au-dessus de nos têtes un ciel factice, comme celui qui sert de décor dans le monde imaginaire du Truman Show. Comme l'écrit encore Samuel Chalea dans « Sauver la nuit », et ce sera ma conclusion, est-ce à dire que le ciel occidental, parce que l'on y voit de moins en moins d'étoiles, n'aura bientôt d'autres valeurs que celles qu'il acquiert désormais via son exploitation pour l'Internet mondial?
Mais merci beaucoup, Hervé Gardette.